Restez à l'écoute, voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À 3 mois des élections européennes, Emmanuel Macron veut toucher le grand public et il s'adresse pour cela directement aux citoyens d'Europe dans une tribune publiée ce matin dans les quotidiens des 28 pays de l'UE comme un air de campagne. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron se pose donc dans cette tribune en architecte de la renaissance européenne face à la désunion de l'UE, face au Brexit, face encore à ceux qu'il appelle les exploiteurs de colère soutenus par les fausses informations qui promettent tout et son contraire.
Il y a urgence, insiste le président, urgence à défendre l'Europe et à la protéger. Ça passe pour lui notamment par l'interdiction du financement des partis politiques par des puissances étrangères, par une préférence européenne dans les marchés publics, par un office européen de l'asile ou encore par des objectifs écologiques communs. Un texte aux allures de programme, effectivement nécessaire et rassembleur pour le ministre de la Culture, Franck Riester, invité de France Culture ce matin.
Il a raison de réaffirmer la nécessité d'être unis en Europe pour faire face aux enjeux du monde, pour faire face à celles et ceux qui, à l'extérieur de l'Union, mais aussi à l'intérieur, veulent fragmenter l'Europe, veulent détruire l'Europe, parce qu'évidemment, on est plus forts, nous, Européens, si on mène des politiques en matière de défense, en matière économique, en matière commerciale, en matière d'innovation, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ces politiques, si on les mène ensemble, on est plus forts.
Peut-être, mais pas au détriment de la France, rétorque sur France Info l'eurodéputée Les Républicains Nadine Morano.
Il ne parle pas de la place de la France. Et on voit bien que dans cette tribune où le mot France apparaît une seule fois, eh bien, c'est le macronisme. La France doit s'effacer dans ce fédéralisme européen. En fait, ce sont des mots, c'est du blabla. Et d'ailleurs, il termine par une proposition de faire un grand débat européen. Voilà ce qu'il sait faire. Il ne sait que débattre, mais jamais décider, jamais trancher.
Mais tous ne sont pas d'accord au sein de Les Républicains. Jean-Pierre Raffarin trouve, lui, le projet d'Emmanuel Macron plus abouti que tous les autres. Et c'est donc sans hésitation que l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac annonce son soutien au président.
Rosalie Lafarge, et la recomposition de la droite et du centre après les européennes, souhaitée donc par Jean-Pierre Raffarin, ne se fera pas dans la douceur. Éric Woerth, le président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée, affirme déjà que si Jean-Pierre Raffarin soutient une autre liste que LR aux européennes, il ne sera plus dans les LR. De la recomposition de la droite maintenant au niveau européen, 12 partis membres du PPE, le principal groupe politique au Parlement à Strasbourg et Bruxelles. 12 partis ont officiellement demandé hier l'exclusion de Viktor Orban, le premier ministre populiste hongrois, et de son parti, le Fidesz, jugé trop hostile à l'Union européenne et à ses valeurs. Dernière preuve en date, ses affiches en Hongrie et une campagne menée dans les médias pro-gouvernementaux contre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il s'agit de la goutte d'eau de trop pour ces 12 partis membres du PPE, issus d'Europe du Nord, du Benelux ou encore de Grèce. En France, les LR ont, eux, officiellement soutenu Viktor Orban avant-hier encore. Et c'est une source de tension, notamment entre le patron des LR, Laurent Wauquiez, et sa principale rivale, Valérie Pécresse. Combien de temps restera-t-il encore en prison? Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault Nissan, incarcéré depuis 3 mois et demi maintenant au Japon pour des soupçons de malversation, a vu sa demande de remise en liberté être acceptée ce matin par le tribunal de Tokyo. Libération à condition de payer une caution d'1 milliard de yens, un peu plus de 8 millions d'euros. Mais le procureur a décidé de faire appel de cette décision. Carlos Ghosn devrait être fixé sur son sort dans les heures qui viennent. En France, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dit ne pas vouloir interférer dans la justice japonaise, mais elle affirme qu'il est important que Carlos Ghosn puisse avoir un procès équitable et si, étant libéré, il est dans cette capacité-là, c'est heureux. Fin de citation. L'avenir de l'Algérie passe par le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle d'avril prochain. C'est ce qu'affirme son ancien premier ministre, Ali Benflis, 2 fois candidat à la présidentielle. Il a refusé de se présenter au scrutin d'avril prochain. Il ne souhaite pas, dit-il, servir de caution à un régime qu'il juge corrompu et dépassé. Un régime toujours soutenu par ce que l'on appelle la présidence à Alger. Qui constitue l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika? Élément de réponse avec Leïla Berato.
Dans le premier cercle de la présidence, il y a les 2 frères d'Abdelaziz Bouteflika, Saïd et Nasser. Mais il y a aussi Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, le chef d'état-major, qui rejette tous les appels qui ont été faits à l'armée depuis plusieurs mois. À ses côtés, Tayeb Belaï, 71 ans désormais, président du Conseil constitutionnel depuis plus d'une semaine. Autour de ce premier cercle, des responsables politiques comme Abdelmalek Sellal ou Ahmedou Yahya qui ont été ministres au cours des 20 dernières années. C'est Abdelmalek Sellal qui a dirigé les trois dernières campagnes électorales du président algérien. Mais il y a aussi d'autres personnalités plus discrètes qui participent aux décisions. Le président algérien peut compter sur le soutien de hauts cadres de l'État et de poids lourds de la société civile, comme par exemple le FCE, le patronat dirigé par Ali Haddad, un proche de Saïd Bouteflika, le frère du président. Cet entrepreneur en travaux publics a fait fortune grâce à la commande étatique.
Leïla Berrato, correspondante d'RFI à Alger pour France Culture. Le temps de ce mardi 5 mars chargé de la Normandie au Grand Est avec des averses localement orageuses ce matin. Davantage de soleil sur le reste du pays. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 10 et 17 degrés du nord au sud jusqu'à 21 près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Marette.